Merci d'écouter RFI. Il est 23h ici à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Et prenez place pour votre demi-heure d'information consacrée à l'actualité française. Ravi de vous accueillir.
Martin Guèze.
Édition largement consacrée au nouveau gouvernement français. François Bayrou et Emmanuel Macron font du neuf avec du vieux. Elisabeth Borne, Manuel Valls ou Gérald Darmanin sont de retour. Restez bien avec nous. 24 heures en France bouleverse son programme pour vous reproposer notre édition spéciale consacrée à la nouvelle équipe de François Bayrou. L'autre grand titre de l'actualité française, c'est cette journée de deuil national, 8 jours après le passage du cyclone Chido à Mayotte. Enfin, un peu de magie, avec ce collectionneur exceptionnel de Lego qui s'est offert une reproduction de l'église de Notre-Dame et le rappeur Tiakola en fin de journal. 24 heures en France, vous avez le programme, c'est parti.
RFI.
Le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
On prend les mêmes et on recommence ou presque avec Elisabeth Borne, Gérald Darmanin ou Manuel Valls. François Bayrou fait du neuf avec du vieux. Le Premier ministre qui a composé son nouveau gouvernement après 10 jours de consultation avec le président Emmanuel Macron et les différents groupes politiques. Gouvernement annoncé tout à l'heure à l'Elysée par Alexis Kohler, le secrétaire général de la présidence que vous venez d'entendre. Les anciens premiers ministres, donc Elisabeth Borne et Manuel Valls, sont respectivement nommés à l'éducation nationale et aux Outre-mer. Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, prend lui le ministère de la Justice. Bruno Retailleau et Rachida Dati, déjà présents sous Michel Barnier, conservent eux leur portefeuille, à savoir l'Intérieur et la Culture. François Bayrou qui s'est dit fier de ce gouvernement d'expérience, gouvernement qu'il est venu défendre sur le plateau de nos confrères de BFM TV. Il réfute toute influence du Rassemblement National sur la composition de son équipe, qui ne l'a donc pas convaincu de ne pas nommer Xavier Bertrand au ministère de la Justice.
Il n'est pas vrai que quelque influence que ce soit exercée sur moi. Entre les électeurs de la France Insoumise et les électeurs du Rassemblement National, il y a 16 millions de Français. Et je ne veux pas faire la guerre à ces 16 millions de Français. Je trouve que l'expression « briser les mâchoires » est en effet une expression de guerre.
Xavier Bertrand qui ne brisera pas de mâchoire puisqu'il n'a pas été nommé par François Bayrou, le premier conseil de ministre de cette nouvelle équipe qui sera le 3 janvier prochain. Et le discours de politique générale du Premier ministre le 14, Jordan Bardella, le chef du Rassemblement National, qui dénonce ce soir une coalition de l'échec en parlant du gouvernement, coalition de 34 membres. Composition d'équipe dont on n'a pas perdu une seule miette. Victorien Villaume, du service politique de RFI. C'est donc le 4e gouvernement de l'année 2024 en France, avec un air de déjà-vu et plusieurs revenants.
C'est à croire que François Bayrou a utilisé une machine à voyager dans le temps. Deux macronistes de premier plan font leur retour. L'ancienne première ministre Elisabeth Borne et l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Les deux personnalités deviennent respectivement ministres de l'Éducation et de la Recherche et ministres de la Justice. Moins connue dans la Macronie, Aurore Berger retrouve son poste de ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et Amélie de Montchalin est nommée ministre chargé des comptes publics. Autre revenant, l'ancien ministre du Travail François Rebsamen et l'ancien chef de gouvernement sous François Hollande, Manuel Valls. Le premier hérite du portefeuille de l'aménagement du territoire, le second, le ministère des Outre-mer. Si les deux hommes ont un long passé au Parti Socialiste, ils ont rompu avec le Parti à la Rose en 2017 en soutenant la candidature d'Emmanuel Macron. Alors François Bayrou vante un gouvernement d'expérience. La Macronie est en mode zombie, cingle au contraire l'insoumis, Manuel Bompard.
La composition complète du gouvernement Bayrou que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Faire un nouveau gouvernement qui n'emballe pas vraiment les Français, et c'est un euphémisme, des Français complètement désabusés par ces incessants changements et par le manque de renouvellement des équipes gouvernementales.
Je suis dégoûtée, voilà.
Pourquoi ?
D'abord, Darmanin, il me semble qu'il traîne quelques casseroles. Hein ? Elisabeth Borne, on l'a vu à l'œuvre.
C'est vraiment du recyclage, là, de Manuel Valls. Il a vraiment dû, je pense, racler les fonds de tiroir pour trouver Manuel Valls.
On prend les mêmes et on recommence, en fait. Ah oui, tout à fait. Et je pense qu'ils vont aller droit au mur parce que finalement, il va y avoir encore une motion de censure.
C'est la même limonade. Et dans pas longtemps, M. Bayrou, il va sauter comme M. Barnier.
Voilà des propos sucrés-salés recueillis par nos confrères de France 2. Sur le plan économique, François Bayrou plaide ce soir pour un retour de l'objectif de déficit public autour de 5% en 2025, peut-être un peu plus. Alors que son prédécesseur Michel Barnier avait mis la barre à 5%, Michel Barnier qui s'était cassé les dents sur sa loi de finances, qui l'avait conduit à la censure. Une censure que François Bayrou espère éviter en nommant notamment Éric Lombard, ex-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, au poste clé de ministre de l'économie. Éric Lombard qui appelle ce soir à traiter le mal endémique de la France, à savoir le déficit. Un inconnu qui sera le garant de l'orthodoxie financière, déplore Denis Gravouille, membre du bureau confédéral du syndicat CGT.
Éric Lombard, on le connaît pas. C'est quelqu'un qui est connu des milieux financiers, puisqu'il était de la Caisse des dépôts et consignations. Que ce soit Éric Lombard ou quelqu'un d'autre, c'est la même orthodoxie financière qui semble présider à la politique du gouvernement. Et on peut s'attendre à ce qu'on essaye de nous repasser le même genre de projet de loi de finances, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, celui qui avait été censuré. Peut-être que ce coup-ci, le Rassemblement national n'aura pas le courage de le censurer une deuxième fois. Et on aura à nouveau des économies sur le dos des services publics et sur le dos de la transition écologique, par exemple.
Des propos recueillis au téléphone RFI de Claire Fage, le nouveau gouvernement français, sur lequel nous reviendrons dans quelques instants dans notre édition spéciale. L'annonce du nouveau gouvernement qui vient conclure une journée de deuil national en France, drapeau en berne, minute de silence en hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte, cyclone qui a fait au moins 35 morts. Le Premier ministre François Bayrou a déclaré ce soir qu'il pensait que le nombre de victimes se comptait en dizaines et non en milliers. En attendant, les habitants mahorais manquent toujours de vivres et manquent d'eau principalement. L'État français vivement critiqué pour le retard de l'aide humanitaire. Emmanuel Macron a promis une loi spéciale pour rebâtir Mayotte et mettre fin aux bidonvilles, ce qui pourrait prendre près de 2 ans. Minute de silence en tout cas respectée ce matin à 11h heure française à l'Élysée, à Matignon, mais aussi à Mamoudzou, où cette journée a été diversement perçue sur place.
Alors moi, ce que je retiens, c'est le réconfort, on va dire, qui vient du national, où on a tout le soutien de la nation qui nous encourage, parce qu'on a vraiment besoin de ces moments de réconfort, hein, parce que ça a été très 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 compliqué. Donc ça nous aide à tenir et puis à faire en sorte parce qu'on puisse se reconstruire notre île.
Je ne savais pas s'il y avait une journée de deuil national. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de connexion. Du coup, c'est normal qu'on ne savait pas. C'est une journée comme ça. Ce n'est pas la priorité.
J'aimerais que les choses bougent d'abord avant qu'on fasse une journée de deuil. On a tout perdu et on ne voit personne venir nous voir déjà. Moi, j'ai perdu la toiture de la maison. Ça ne changera rien pour moi.
On a conscience du soutien. Tout le monde ici a réussi à avoir des messages quand on a l'électricité. C'est vrai que ce deuil national, c'est quelque chose. Mais nous, ici, on est à J8 du cyclone. On n'a toujours pas d'électricité. Les centres d'hébergement n'ont plus à manger. Donc concrètement, c'est vraiment une catastrophe. Et quand est-ce que va venir l'aide? Donc la minute de silence, oui, mais l'aide avant tout.
La parole de Mahoré recueillie à Mamoudzou par nos envoyés spéciaux Nicolas Feldman et Jadel Khoury. Une minute de silence respectée sur tout le territoire. En mémoire des victimes de ce cyclone, sur place donc les secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver les disparus, mais aussi pour établir les besoins essentiels en eau ou en électricité. Et en France métropolitaine, la solidarité s'organise aussi, notamment avec cette collecte de dons qui a ouvert ce matin à la Bourse du Travail de Saint-Denis, au nord de Paris, où s'est rendu Baptiste Coulon. Reportage.
Jocelyn est le premier à se présenter à la collecte. Il porte un gros sac à bout de bras.
Là, il y a de la farine, il y a des gâteaux, du riz. Des aliments secs.
Des denrées non périssables pour tenir le temps du voyage, mais pas que.
Des cahiers aussi, des crayons couleur qu'on en est pour les écoles.
Président d'un club de football antillais du nord de Paris, il a immédiatement fait jouer la solidarité.
À partir du moment où j'avais lancé ça au sein de mon club, les parents, les gamins, ils ont commencé à se manifester pour justement aider Mayotte. Et c'est de là qu'ils ont eux-mêmes acheté les affaires avec les parents. Et donc là, c'est les premiers cartons, les premiers colis qu'on emmène, mais ils vont en avoir d'autres.
Une fois remplis, les premiers cartons sont emballés. C'est le travail de Steve, membre de l'ONG Outre-mer Solidarité Catastrophe, qui organise la collecte. Un travail minutieux.
On va trier les vêtements, on va trier les denrées alimentaires, on va tout trier tout de suite là, rapidement, puisqu'on pense qu'on aura pas mal de succès. On sait que ça va marcher.
Car l'aide vient de partout, pas uniquement de métropole. La solidarité entre les Outre-mer est aussi la clé d'une collecte réussie.
Peu importe Mayotte, La Réunion, peu importe la Guadeloupe, la Martinique, c'est toutes les ultramarins qui se mettent ensemble pour pouvoir apporter notre aide aux compatriotes.
L'ONG a déjà pris attache avec un transporteur de fret aérien. L'aide sera acheminée en conteneur à La Réunion avant de rejoindre Mayotte.
Une journée de deuil et de solidarité sur laquelle nous reviendrons également dans quelques minutes avec le journal de l'Outre-mer d'Alex Léveillé. Sur une note bien plus légère, voilà un joli cadeau de Noël que s'est offert un grand collectionneur de Lego qui possède plus de 12 000 pièces dans son entrepôt au Québec et qui vient de s'offrir la cathédrale de Notre-Dame qu'il s'est empressé d'acheter à peine arrivé à Paris. Un grand fan de jeux de construction qui s'appelle Frédéric Maxime Savard.
C'est fait hier directement au hall. Je l'ai acheté au Lego Store à côté de Notre-Dame.
Vous êtes arrivé à Paris, le jour même, vous avez acheté la boîte de Lego?
En fait, oui, la journée même, j'ai acheté la boîte de Lego et même que j'ai attendu que ça rouvre en pensant qu'il allait avoir une file. J'ai passé, il y avait, la boutique était vide et 4 heures après, il y avait une file monstrueuse. Alors, j'ai été chanceux d'être un lève-tôt. Celle-là, c'est une boîte à 230 euros. C'est quand même pas donné, mais vu l'œuvre, je trouve ça très correct. Celle-ci, c'est sûr qu'elle va être montée pour rejoindre. J'ai d'autres quelques pièces, mais évidemment, j'ai un gros volume de Lego. Je peux pas toutes les monter. J'ai déjà quand même beaucoup d'espace et de pieds carrés pour exposer, mais étant donné ma collectionnite aiguë, il y a des pièces qui vont sûrement rester en boîte très longtemps, peut-être voire pour toujours.
Voilà, un joli cadeau et des propos recueillis au micro de Frédéric Genot. Enfin, on termine en musique avec le rappeur Tiakola qui sillonne l'Afrique de l'Ouest. Il sera cette semaine à Dakar, Cotonou et Abidjan avant de s'envoler pour les États-Unis. Sophie Torlotin.
Mais comment y a des lumières à la base, on brillait que dans le noir. Viens voir la vie en vrai, de plus près, c'est pas la fête en vrai.
Tiakola n'a que 25 ans, mais déjà tout d'un grand. Son premier album solo, Mélo, sorti en 2022, a été certifié disque de platine, tout comme l'album de duo publié l'an dernier avec Gazo.
J'suis en mission, j'irai jusqu'au bout, gangsta jusqu'au bout.
My lifestyle, baby, j'suis un gangsta, African. Batman.
On le surnomme Tiako Lamelo, tant ce natif de Bondi a le sens de l'harmonie. Né William Mundala dans une famille d'origine congolaise, Tiakola a très tôt chanté dans une chorale chrétienne. Après avoir été découvert dans le groupe 4 Queues il y a 7 ans, il a pris son envol en solo et multiplié les duos et featurings, notamment avec le rappeur britannique Dave. De quoi envisager une tournée international qui commence en Afrique de l'Ouest, se poursuit en Europe et passera par l'Amérique du Nord en février prochain.
Voilà, c'est avec Vuitton, Balenciaga, Tiakola et Sophie Torlotin que se referme ce journal. Mais tout de suite, place au journal de l'Outre-mer.
24 heures en France. Martin Guèze.
Une journée de deuil national observée partout dans l'Hexagone, mais également dans les territoires ultramarins. À Mayotte, bien sûr, vous l'avez entendu, mais aussi à La Réunion. C'est à la une ce soir du journal d'Alex Léveillé.
Madame, monsieur, bonsoir. Drapeau en berne et une minute de silence observée aussi à La Réunion, à la maison de Mayotte. Un deuil national décrété 8 jours après le passage du cyclone dévastateur et meurtrier Chido à Mayotte. Adjaya Oharo de Réunion la première.
14h.
Voilà, une minute de silence. Merci.
Chacun se recueille, mais tous reprennent rapidement leur activité de bénévole à la maison de Mayotte de Saint-Denis, malgré tout ce à quoi ils ont pensé pendant le silence.
La voix de ma mère, en fait, parce que j'ai l'habitude de l'entendre 2-3 fois par jour, et là, ça fait 3 jours que je ne l'entends pas, et j'ai pensé à elle.
D'ici La Réunion, à l'Hexagone aussi, qu'ils ont pu faire cette minute de silence, ça fait plaisir.
À une profonde gratitude pour toutes les personnes qui sont ici, qui ont pris de leur temps, de leur énergie, et beaucoup d'amour pour penser aux endeuillés, pour penser aux blessés.
Ce deuil national est nécessaire et réconfortant pour eux, mais pour les autres, justement, il faut se retrousser les manches. Ali El Fayad est chargé de mission cohésion sociale et dialogue interculturel à la délégation de Mayotte.
Il y a une certaine forme de considération, mais voilà, faut pas que ça s'arrête à là. Et rien de mieux que de pouvoir faire partir toutes ces denrées, de pouvoir les acheminer.
Le département de La Réunion a déjà financé l'acheminement de 20 palettes de la maison de Mayotte vers l'île aux parfums, mais il en reste 20 autres en attente.
Et près de 500 étudiants mahorais sont inscrits à l'université de La Réunion, des étudiants qui s'inquiètent pour leurs proches, mais aussi pour le financement de leurs études. Adjaya Oharo.
Votre correspondant n'est pas joignable, vous pouvez le rappeler ultérieurement.
Voilà plusieurs jours que Martadi Chaynaz n'a pas eu de nouvelles de sa mère. Une situation délicate pour la jeune mahoraise étudiante en commerce.
En tant qu'étudiante, je sais que me reposer sur ma mère, c'est fini. Parce que je ne pourrais pas, je me sentirais de trop de demander de l'aide à ma mère, sachant comment ça se passe à Mayotte.
Au Crous, cette autre étudiante, elle, redoute de grosses difficultés financières, mais tient tout de même à venir en aide à ses proches dans l'île aux parfums.
J'ai la bourse de 600 et quelques. Ma mère, elle ne travaille pas.
pas. De mon côté, je pense que je vais donner un peu d'argent du coup, l'argent que je devais payer le loyer.
Et même si le moral n'y est pas, impossible pour Souredine d'imaginer d'arrêter ses études d'information et communication.
Vers le 15 comme ça, mon père m'a versé de l'argent ici, à peu près 200 euros. Mais vu l'état en ce moment à Mayotte, c'est impossible.
Des numéros d'urgence ont été mis en place pour venir en aide aux étudiants maorais qui peineraient à payer leur loyer ou à faire leurs courses, comme le 06 92 43 27 92.
Et à Mayotte, l'installation de l'hôpital de campagne au stade de Cavani est toujours en cours. Il doit être opérationnel aujourd'hui. La structure modulaire doit soulager le centre hospitalier de Mayotte, fortement impacté lors du passage du cyclone. Nadia Ali.
Environ une vingtaine de tentes devraient être prêtes d'ici demain pour recevoir une capacité d'une centaine de patients par jour, dans près d'une quarantaine d'hospitalisations en fonction des pathologies des patients. Deux blocs opératoires comprenant une radiologie et une biologie feront partie du centre. L'hôpital mettra également à disposition une pharmacie, un dispositif qui fonctionnera avec un effectif de 90 personnes. L'équipe de l'escrime détient un approvisionnement de médicaments qui devrait tenir qu'un mois, mais sera réapprovisionné au fil du temps et restera sur une durée non définie pour le moment, afin de soulager au mieux le personnel soignant du CHM.
Nadia Ali de Mayotte, la première. Les chanter Noël aux quatre coins de la Martinique, c'est de tradition cette période. Et ce week-end, plus de 400 personnes se sont rassemblées pour un chanter Noël en temps longtemps au quartier Montjoly, au Morne-Vert. Alain Livoury de Martinique, la première.
Chacha, tambour et puis la voix. Chaque année, depuis plus de 15 ans, l'association Casse des Pitons organise un chanté Noël traditionnel. Ici, les maîtres mots sont authenticité, convivialité et partage. Félix Ludivion est le président de l'association Casse des Pitons.
On a décidé avec les membres qu'on ne veut pas d'instruments de musique pour que tout le monde puisse participer.
On vient de toute la Martinique et même de l'Hexagone pour assister à ce chanté Noël.
J'habite en France, je suis venu prendre l'ambiance, le pouls juste avant Noël.
Je vis dans un vrai cantique de mon île.
Un chanté Noël qui a duré jusqu'à 6 heures du matin et qui s'est terminé par un traditionnel pain au beurre chocolat.
Un sujet signé Alain Livoury de Martinique, la première. Et c'est sur ces belles notes de musique que je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Bonne soirée à tous.
Merci beaucoup Alex Léveillé, joyeux Noël à vous aussi. Mes 24 ans en France tout de suite bouleverse ce soir son programme. Après l'annonce du nouveau gouvernement en France, nous vous proposons de revivre notre édition spéciale que vous avez pu entendre un peu plus tôt sur notre antenne, sur les coups de 18h temps universel, juste après l'annonce de la composition d'équipe de François Bayrou. Une édition spéciale présentée par Véronique Rigolet.
Édition spéciale sur RFI. Véronique Rigolet.
Édition spéciale alors que vient d'être annoncé le gouvernement de François Bayrou, juste avant Noël, promesse tenue. Mais est-ce pour autant le cadeau qu'attendaient les Français pour mettre fin à l'instabilité politique qui bouscule la France depuis la dissolution orchestrée par Emmanuel Macron en juin dernier ? Et on en parle ce soir avec nos invités, Aymeric Durox, sénateur Rassemblement National de la Seine-et-Marne, Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis, également en ligne avec nous, Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po, président de MCBG Conseil, et à mes côtés, Aurélien Devernois du service politique. Bonsoir à vous, bienvenue sur RFI.
Bonsoir,
bonsoir.
Et pour commencer, je me tourne vers vous, Aurélien. Un mot sur ce casting quelque peu surprenant de ce gouvernement qu'on attendait depuis une dizaine de jours.
Alors, surprenant, oui et non, dans le sens où on s'attendait déjà depuis plusieurs jours à certains retours. Celui d'Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, qui entre dans ce gouvernement comme numéro 2 du gouvernement. Elle va être ministre de l'éducation, du numérique, enfin un très gros poste. Il y a aussi un autre récemment ministre, c'est Gérald Darmanin, qui était à l'intérieur et qui cette fois passe garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des retours un peu plus étonnants, et notamment celui de l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, qui devient numéro 3 de ce gouvernement, sur un poste qui, jusque-là, n'était pas forcément autant mis en avant, mais qui, avec les crises actuelles, notamment à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les Antilles, devient vraiment assez critique, c'est le poste de ministre de l'Outre-mer. Donc ça, déjà, c'est un gros retour. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un retour de très proche ou de fidèle en fait d'Emmanuel Macron. Il y a Aurore Berger qui revient aux discriminations, Amélie Montchalin qui va être chargée du budget. Il y a aussi des entrées de nouveaux ministres LR, notamment Véronique Louwagie à l'économie sociale et solidaire, ou encore Sophie Primas qui devient porte-parole du gouvernement. Donc voilà, il y a, si vous voulez, un nouveau socle commun qui se rebâtit plus ou moins sur ce qui avait été fait avec Michel Barnier, mais avec l'arrivée d'ex-figures de la gauche et qui, en tout cas, aujourd'hui, ne sont pas liées au NFP. Outre Manuel Valls, il y a aussi François Rebsamen, l'ancien maire de Dijon, et puis Juliette Méadel, qui est une proche de Manuel Valls, qui arrive au ministère de la Ville.
Émeric Durox, vous êtes sénateur Rassemblement National de Seine-et-Marne. Que pensez-vous de ce nouveau gouvernement? Et tout d'abord, est-ce que vous êtes intervenu, est-ce que le RN est intervenu dans la formation de ce gouvernement, comme le dénonce Xavier Bertrand ce soir?
Bonsoir. Écoutez, non, nous ne sommes pas intervenus directement.
Ou indirectement.
On peut constater en effet que le gouvernement ou la Macronie propose et le RN dispose. Mais de toute façon, pourquoi nous sommes dans cette situation-là un petit peu, il est vrai, d'arbitre, parce qu'il y a une situation complètement baroque avec la gauche qui, dès le départ, a annoncé qu'elle censurait. Et donc, si ce gouvernement veut survivre, il doit au moins s'attacher à une forme de neutralité. Mais nous, nous avons dit que de la part du troisième bloc, c'est-à-dire nous avons dit de toute façon depuis le début que même si, évidemment, on peut critiquer ce casting, hein, c'est les derniers mohicans du macronisme, hein, c'est vraiment c'est un petit peu catastrophique. D'ailleurs, si ce gouvernement tombe, il n'y aura plus personne. Mais nous, on ne va pas censurer a priori, on jugera sur pièce, et notamment sur le budget, parce qu'on a besoin d'un budget qui répare la France, qui en a grand besoin. Donc attendons, mais en effet, je ne suis pas très confiant, je ne suis pas très optimiste pour la survie à long terme de ce gouvernement.
Pourquoi vous doutez de la survie de ce gouvernement particulièrement ?
Bon, parce qu'il y a énormément de figures qui ne sont pas appréciées des Français, parce que, par exemple, M. Bayrou a dit qu'il était d'accord pour rediscuter de la réforme des retraites, et il nomme en numéro 2 Mme Borne, qui est l'artisan de cette réforme des retraites. Donc il y a plein de messages contradictoires. Moi, par exemple, ancien professeur d'histoire-géographie, je vois revenir Mme Borne, qui avait nommé Pape Ndiaye, funeste ministre de l'Éducation nationale, complètement c'est pas des bons signaux qui sont envoyés, même à ce qui reste de leur base, et je crois qu'en fait, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire pas grand-chose.
Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis, que pensez-vous ce soir Eh bien, on écoute Thomas Porte, le député LFI de Seine-Saint-Denis, qui dénonce un gouvernement à droite.
Elisabeth Borne, première ministre des 49-3 à la tête de l'éducation nationale. Gérald Darmanin, ministre des violences policières à la tête de la justice. Bruno Retailleau, qui reprend les obsessions racistes et qui est maintenu au ministère de l'Intérieur. C'est un gouvernement à droite toute. Et toutes celles et ceux qui, y compris dans nos partenaires, ont pu croire à un moment qu'il y avait une opportunité de discuter, qu'on pouvait avoir un soi-disant soit accord de non-censure, soit une espèce de gouvernement d'union nationale, sont ce soir fixés par la vérité des prix. C'est un gouvernement très à droite, et dans les mains du Rassemblement national, une fois de plus, puisqu'ils se vantent eux-mêmes d'avoir empêché Xavier Bertrand de devenir ministre de la Justice. Donc Marine Le Pen a donné les derniers arbitrages pour que François Bayrou annonce ce gouvernement. C'est aussi ça l'information du soir. Personne ne voulait rentrer dans ce gouvernement, et il durera, à mon avis, moins longtemps que celui de Michel Barnier. Pour nous, la censure, elle est évidente.
Voilà, on vient d'écouter Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis. C'est tout sauf une surprise, cette censure annoncée.
Par LFI, oui. De toute façon, c'est la position de la France insoumise depuis le départ. Ce qui est intéressant dans ce que dit Thomas Porte, c'est quelque part, il envoie ce message au Parti Socialiste, notamment puisque c'était eux qui étaient les plus ouverts à discuter avec François Bayrou. Il leur dit, mais regardez, il se moque de vous, quelque part. Et en effet, ce soir, du côté des socialistes, il y a quand même une certaine amertume. Le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner, qui dit, c'est une forme de mépris, ce gouvernement. Et c'était pas le moins disposé à discuter avec François Bayrou. Il y a vraiment la sensation, non seulement que François Bayrou n'a pas du tout pris en compte ce qui avait pu être dit par les socialistes lors des différents entretiens qu'ils ont eus avec lui, mais qu'en plus, quelque part, peut-être l'influence d'Emmanuel Macron a encore plus ancré à droite son gouvernement. Et ça, ça va être
très compliqué.
C'est
de la provocation pour la gauche social-démocrate, comme on dit.
C'est une forme de provocation, même s'il y a en effet Manuel Valls, François Rebsamen et Juliette Méadel, mais qui sont plus de l'époque de François Hollande. Ça fera peut-être plaisir à François Hollande, on ne sait jamais.
Déjà ça.
Mais en tout cas, dans la perspective de négociations qui pourraient encore se tenir, puisque en gros, le Parti Socialiste a laissé à François Bayrou jusqu'à sa déclaration de politique générale pour ouvrir des négociations, donc jusqu'au 14 janvier. Bien là, quand même, ces négociations semblent de plus en plus improbables et donc les socialistes seraient de plus en plus tentés de voter à nouveau la censure.
On est déjà dans ce scénario un peu funeste de feu le gouvernement Barnier. Philippe Moreau, Chevrolet, tout va se jouer maintenant, hein, comme le disait Aurélien, avec la négociation ou non de ce pacte de non-censure avec la gauche pour le gouvernement, ça c'est pas gagné.
Non, c'est pas gagné. Il y a deux facteurs qui peuvent sauver le gouvernement Bayrou, qui est une sorte de Barnier 2 en réalité, avec très peu de changements, à part peut-être l'arrivée de Juliette Méadel, qui est peut-être la plus jeune, en tout cas, de gauche du gouvernement à arriver là. Après, sur les deux écueils, les deux choses qui peuvent sauver le gouvernement, le premier, c'est que le RN n'a pas forcément intérêt à remettre de l'instabilité dans le jeu. Les Français sont vraiment très inquiets, toutes les enquêtes le montrent. Il y a une demande de stabilité très forte. C'est la première fois, l'une des premières fois dans l'histoire de la Ve République qu'on a une déclaration commune, syndicat, patronat, pour demander de la stabilité. Il n'est pas certain que le RN ait à gagner à provoquer crise après crise. Et puis l'autre facteur qui peut sauver ou aider François Bayrou à durer, c'est s'il parvient à négocier sur les retraites et à imposer à l'Élysée, après cette défaite, hein, parce que ce gouvernement, pour lui, c'est une défaite, il est ancré à droite, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire, mais peut-être qu'il peut l'emporter sur la question des retraites et imposer à l'Élysée, en contrepartie d'une stabilité, eh bien une réforme de la réforme, c'est-à-dire un changement de la réforme des retraites.
Aurélien Devernoy, est-ce que vous pensez que François Bayrou, le Premier ministre, peut trouver un compromis, en tout cas faire des concessions à la gauche sur cette réforme des retraites afin... d'obtenir ce pacte de non-censure.
La question, c'est quelle marge de manœuvre il va avoir au sein de son propre gouvernement. Parce que finalement, des fidèles, ne serait-ce que des gens du Modem, il n'y en a pas tant que ça. Autre question, on n'en a pas parlé encore, mais le nouveau ministre de l'économie, qui est la seule figure non-politique à être nommée ce soir, c'est Éric Lombard, l'ancien patron de la Caisse des dépôts et consignations, ministre de l'économie. Est-ce que lui, qui est plutôt libéral, qui a son destin qui est quand même assez lié à celui d'Emmanuel Macron, qui l'avait nommé dès 2017 à la tête de cette espèce de banque d'État, est-ce que lui pourra discuter avec François Bayrou sur la question des retraites qui va coûter de l'argent au pays ?
Philippe Moreau, Chevrolet, en quelques mots, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? On a déjà le calendrier, hein, Conseil des ministres le 3 janvier, déclaration de politique générale le 14. Est-ce que ce nouveau gouvernement va se mettre au travail tout de suite ? Et est-ce que François Bayrou va continuer ses tractations pour essayer de sauver ce pacte de non-censure ? C'est pas forcément un bon Noël qui s'annonce.
Ce qui va se passer, c'est beaucoup de communication de François Bayrou pour essayer de créer un pacte de gouvernement, de négociation avec l'Élysée, puisqu'il va falloir que l'Élysée accepte de lâcher du lest. Le problème de notre système, c'est qu'on a aujourd'hui un Parlement qui serait en capacité, tout seul finalement, peut-être de trouver une solution, mais un président qui ne veut pas que ce jeu se fasse. Donc on a véritablement un énorme problème institutionnel. Donc François Bayrou va essayer de le résoudre. Il y aura de la communication parce que probablement Manuel Valls va aller à Mayotte. On va avoir un petit peu de démonstration de force aussi des nouveaux ministres.
Aurélien Devernoy, c'est le président Macron qui a la solution s'il accepte un peu le détricotage de sa réforme des retraites en quelques mots, en deux mots.
En deux mots, probablement, mais comme depuis le départ Michel Barnier, c'est lui qui gère.
Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci Aurélien Devernoy du service politique d'RFI. Merci au politologue Philippe Moreau-Chevrolet et au sénateur RN Emeric Durox.
Et c'est ainsi que 24 ans en France se termine. Merci à Quentin Moulin, à la réalisation Adrien Delgrange, à la rédaction en chef Tom Malky, à la préparation. Dans quelques instants, vous retrouverez Guillaume Ouattara pour la dernière édition d'Afrique Soir. Nous reviendrons notamment sur l'actualité au Mozambique, où l'élection de Daniel Chapeau à la tête du pays a été validée par la Cour constitutionnelle. Voilà, restez à l'écoute sur RFI. Très bien.
Appelez-nous, exprimez-vous, Nathalie Amar.
En cette veille de Noël, dites-nous dans quel état d'esprit vous abordez les fêtes de fin d'année. Déplacements, repas, cadeaux, la vie chère pèsera-t-elle pour vous sur ce moment festif? Réveillon de fête ou réveillon de crise? Nous attendons vos appels.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.